7h21, nous retrouvons nos invités. Mathieu Zagrowski, chercheur associé au CESDIP, le Centre de Recherche Sociologique sur le Droit et les Institutions Pénales à l'Université de Versailles-Saint-Quentin. Et puis à côté de lui, Christian Fautré, premier maire adjoint PCF de Champigny-sur-Marne. Je ne vais pas vous demander si Emmanuel Macron va revenir à Champigny-sur-Marne, puisqu'à ma connaissance, il n'y est pas allé après les événements. Vous aimeriez qu'il se rende sur place ?
Oui, ça pourrait être utile, ne serait-ce que pour avoir une vision un peu plus contrastée de la réalité de ces quartiers, de ces villes, et puis des choix qui sont mis en œuvre, et puis mieux connaître ce qu'est la France et ses habitants. C'est toujours utile, quand on est un homme ou une femme politique, de savoir ce qui se passe à un endroit pour pouvoir mieux donner des réponses.
Qu'est-ce que vous voudriez porter à sa connaissance ? Qu'est-ce que vous avez vu de plus caricatural depuis donc cette nuit de la Saint-Sylvestre avec donc cette fête qui dégénère, vous nous l'avez expliqué, trop de monde par rapport à la possibilité d'accueil de cette salle, des policiers qui interviennent et là, deux d'entre eux qui sont violemment agressés. Votre ville, depuis lors, est devenue le symbole, alors pour les uns, des violences policières, pour les autres, des violences des jeunes, et pour vous, eh bien, c'est ce que vous essayez de décrire, Christian Fautré.
C'est toujours cette façon de généraliser toujours les situations qui se déroulent. Évidemment qu'il y a toujours des mots derrière, il y a toujours des problèmes, mais en même temps, pourquoi toujours lorsqu'on parle de la banlieue, des villes, et les banlieues sont très diverses, pourquoi toujours stigmatiser et pourquoi ne pas rechercher ce qui fait commun, ce qui est porté par le plus grand nombre. Il y a évidemment des groupes d'individus qui continuent à faire leur propre business, à dealer, par exemple, pour l'argent facile. Mais à côté de ça, il y a une majorité de jeunes, une très 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 grande majorité de jeunes qui ont envie de réussir, qui ont envie de réussir sa vie par tous les bouts, mais en tous les cas pas celle du deal. Moi, je rencontre régulièrement des jeunes de la vie associative qui se rendent au lycée, qui vont à l'université, qui galèrent pour aller trouver un travail, mais qui veulent être dans la société telle qu'elle est, mais qui rencontrent des vraies difficultés. Donc, généraliser et puis surtout l'immédiateté de l'information, la rapidité de l'information ne permet pas de comprendre ce qui se passe. Et donc moi, j'aimerais que les hommes et les femmes politiques se rendent bien compte de cette richesse, cette diversité qui existe dans ces quartiers. Si aujourd'hui, certains ou certaines utilisent leur colère et leurs mains pour manifester leur mécontentement, c'est pas la bonne solution. Mais il y en a d'autres qui utilisent d'autres moyens pour le faire.
Mathieu Zagrowski, on l'a entendu dans les journaux, il y a aussi un mécontentement et des manifestations d'humeur de la police aujourd'hui. Il y en aura dans toute la France. Pourquoi assiste-t-on à ces manifestations-là ? D'où proviennent-elles ?
Il y a une accumulation de choses. Déjà, il y a un chiffre que je répète quasi systématiquement. Les policiers ont accumulé 20 millions d'heures supplémentaires. Donc il y a un surmenage dans la police actuellement qui est notamment dû à la surcharge de travail depuis 2015, les attentats terroristes et donc tout ce qui s'y rattache, en fait toutes les activités qui en ont découlé, notamment en termes de garde statique et de surveillance d'un certain nombre de sites. Et puis il y a une paupérisation de la police de sécurité publique, je précise bien, parce qu'il faut distinguer la police de sécurité publique, de la police de renseignement ou de la police judiciaire. C'est un peu le parent pauvre de la police nationale, et ce depuis très très longtemps. En 1977 déjà, le rapport Perfit, du nom du ministre de la Justice de l'époque, soulignait le fait que cette police du quotidien avait été largement négligée par les pouvoirs publics qui se préoccupaient surtout de sécurité nationale et de démantèlement de réseaux de criminalité organisée, et puis avait un petit peu oublié cette police qui gère la petite et la moyenne délinquance, celle qui en fait touche les Françaises et les Français au quotidien. Donc c'est une accumulation de choses. Vous avez des commissariats dégradés, des conditions de travail qui sont mauvaises, des voitures qui ne roulent plus, un surmenage. Des violences qu'ils subissent, faut effectivement pas le nier, et donc ce sentiment d'abandon, même si il y a un effort qui a été fait ces 4-5 dernières années, depuis 2013 il y a plus de 8000 postes qui ont été créés, le budget du ministère de l'Intérieur a été augmenté pour l'année 2018, donc il y a eu une prise de conscience, je pense, de la part des pouvoirs publics par rapport à cette situation là néanmoins, c'est pas en quelques mois ou même 2, 3 ou 5 qu'on va rattraper une situation qui est en fait dégradée depuis plusieurs décennies maintenant.
La police de proximité, c'est une bonne solution selon vous ?
Bon, alors, c'est un débat complexe, parce que est-ce que la police de proximité est en train de revenir? En gros, est-ce que la police de sécurité du quotidien qu'on nous annonce, c'est un retour à la police de proximité? Bon, Emmanuel Macron, dans son discours un peu fondateur du mois d'octobre, s'est empressé de dire non, que c'est pas un retour de la police de proximité, parce que le terme est très connoté. En gros, le terme est très connoté, il est associé à une forme d'échec de la gauche à l'époque en termes de sécurité. Alors maintenant, peu importe comment on appelle la chose, police de sécurité du quotidien, police de proximité, police de quartier, il y a besoin évidemment de ça. Pourquoi ? Parce que depuis une quinzaine d'années maintenant, on a vraiment focalisé la police, et encore une fois je parle de la police de sécurité publique, sur des missions essentiellement réactives, répressives, offensives. C'est-à-dire en gros, on est là pour faire du flagrant délit, pour faire du contrôle, pour occuper le terrain. Et on a un petit peu négligé la fonction de contact, de collecte un petit peu d'informations, de création de relais au sein de la société. Si on prend l'exemple justement de Champigny, tout à l'heure Monsieur Fautrey disait, le problème là c'est que la mairie n'était pas au courant, la police n'était pas au courant, le préfet n'était pas au courant. Si on avait une police de proximité, ou ce qu'on appelle une police de proximité, on aurait peut-être eu justement des policiers chargés de recueillir, de comprendre ce qui est en train de se passer dans le quartier, dans la commune, et ils auraient vu par exemple sur Facebook que il y a une soirée qui est en train de se préparer, qu'il y a je ne sais plus combien de centaines de personnes qui se sont inscrites à l'événement sur les réseaux sociaux, et soit on aurait tout simplement clôturé les lieux, fait en sorte que la soirée n'ait pas lieu, ou on aurait mis en place un dispositif, un service d'ordre conséquent et bien dimensionné. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, la police n'a pas le temps de faire ça. Elle n'a pas le temps de faire ça parce qu'on l'a vraiment focalisé sur des missions d'intervention.
Christian Fautrey, c'est ce que vous observez ?
Oui, d'autant que on peut discuter longuement sur la proximité. Toujours est-il que nous avons été candidates, la ville a été candidate de Champigny sur cette police de sécurité au quotidien. Nous n'avons pas été retenus. Moi, ce que je retiens, j'ai l'expérience d'une police de proximité qui avait commencé à se mettre en place il y a quelques années, mais elle avait été très utile dans les quartiers lorsque les jeunes rencontraient les policiers. Ben, à la fois, ça rassurait et ça permettait aussi de collecter aussi pour la police des éléments. Il y a rien de pire que de réagir lorsque le problème est fait. On vient éteindre le feu, mais peut-être cherchons à éviter à ce que le feu se produise. Et donc cette relation entre les citoyens et la police, comment elle peut se faire ? Elle ne peut que se faire avec des moyens humains, des hommes et des femmes qui au quotidien rencontrent, discutent, échangent. Moi je me rappelle des propos à l'époque de Monsieur Sarkozy, vous n'êtes pas là pour faire des matchs de football avec les jeunes. Si, pourquoi pas ? C'est une manière aussi de pouvoir discuter et comprendre ce qu'est l'autre. Les jeunes comprennent ce qu'est la police, quelle est leur mission, et aussi la police, comprendre aussi à quoi sont confrontés les jeunes. Donc c'est une manière de discuter. Et on ne peut qu'améliorer notre connaissance des autres et avoir mal a priori que si on se rencontre.
Oui, Mathieu Zagrossi.
Oui, je voulais rebondir là-dessus, parce que il y a souvent un procès en naïveté quelque part. Affirmer ce type de choses, c'est finalement être un petit peu laxiste et naïf. De mon point de vue, il s'agit aucunement de supprimer la fonction d'intervention, de répression de la police. Évidemment qu'il faut des unités de voie publique qui interviennent sur des urgences, qui procèdent à des interpellations et qui sont là pour gérer en fait des situations violentes ou de crise ou peu importe. Sauf que il faut les deux. Il faut avoir des capteurs en quelque sorte. Il faut avoir policiers qui sont là pour créer cette relation quotidienne, parce que ça engendre aussi un cercle vertueux. Une police qui a un contact avec la population, qui a des relais au sein de la population, c'est aussi une police qui va intervenir dans de meilleures conditions quand elle est dans un quartier. C'est une police qui va avoir des informations qui vont permettre d'anticiper des problèmes. Mais à côté de ça, tout à fait, une fois que le feu, puisque vous avez pris cette image-là, une fois que le feu s'est allumé, une fois que l'incendie a démarré, bien sûr qu'il faut également des policiers qui sont entraînés et dont la vocation, la raison d'être est de gérer des situations d'urgence.
Une interprétation, Christian Fautrey, de cet incident qui a eu lieu donc la nuit du 31 décembre, et c'est le fait que les relations entre les jeunes et la police, alors vous nous direz qui sont les jeunes, puisque ce n'est pas une notion que vous reprenez à votre compte, mais en tout cas, on a l'impression qu'il y a une représentation très dégradée de la police, que la police est là pour être agressive, pour contrôler avec, dans l'idée plus finalement, de montrer son pouvoir. C'est ce que vous observez au quotidien ?
Ben, en tous les cas, je suis bien obligé de prendre acte de ce que disent un certain nombre de jeunes qui se voient contrôlés, par exemple, trop systématiquement. Et c'est vrai que là, il y a une espèce de, il y a un ressenti de la part de ces jeunes. Pourquoi me contrôler plusieurs fois dans la même journée, dans la même semaine? Donc, c'est vrai que ça n'aide pas à comprendre, à se comprendre. Et du même coup, ça ne fait qu'aggraver la mauvaise image qui est véhiculée et que certains entretiennent entre la police et les jeunes. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse attention à trouver. Il faut évidemment des contrôles lorsque on sent que c'est nécessaire de le faire. Mais peut-être aussi faut-il faire en sorte d'éviter que le même jeune soit contrôlé trois fois dans la même journée. Moi, je suis de ceux qui pensent que peut-être, lorsque un policier, un agent de police rencontre un jeune et demande ses papiers, peut-être qu'il faudrait qu'il ait un récépissé de façon à ce que, 2 heures après, une nouvelle équipe vienne le contrôler. Sous quel prétexte d'ailleurs? Parce que, est-ce que c'est parce que sa couleur de peau est différente? Ou est-ce que parce qu'on a un priori sur tel ou tel comportement? Et ça, c'est pas de nature, et ça nous est souvent dit par les jeunes.
Et ça existe, Mathieu Zagrosky ?
Oui, de toute façon, le souci du contrôle d'identité aujourd'hui en France, c'est que il n'est pas utilisé selon ce qu'il, enfin comment dire, selon les objectifs qui lui sont assignés. Les conditions en fait de réalisation des contrôles d'identité, elles sont listées dans le code de procédure pénale. Comme vous le disiez, c'est si on pense qu'une infraction va être commise ou vient d'être commise, ou si on pense qu'une personne a des informations sur une infraction, que c'est une personne recherchée, on peut contrôler. Vous me questionniez tout à l'heure sur les raisons du malaise policier. L'une des causes aussi du malaise policier, l'un des arguments souvent avancés par les forces de l'ordre, est de dire au fond, la justice ne fait pas suffisamment son travail. Elle relâche des gens, elle ne sanctionne pas suffisamment rapidement. Alors ça, c'est un autre débat dans lequel j'entrerai pas parce qu'il est complexe et très très long. Néanmoins, cette frustration, elle se répercute justement dans les contrôles d'identité. Pourquoi je dis ça? C'est que le policier se dit de toute façon, un certain nombre de jeunes qu'on connaît et dont on sait qu'ils sont impliqués dans des trafics ou dans telle ou telle activité délinquante, ils seront pas sanctionnés. Donc nous, en fait, on va les sanctionner temporairement, entre guillemets, en les soumettant à des contrôles d'identité répétitifs. Et donc c'est devenu en fait une espèce de mode de sanction un peu informelle.
C'est une punition en tant que telle.
C'est une punition en tant que telle. Et c'est aussi devenu un mode d'occupation du terrain. C'est une façon de dire, vous ne respectez pas, donc nous, on vous montre qu'on a plus de pouvoir. Là encore, en fait, c'est une spirale dans laquelle on est tombé depuis plusieurs décennies, et il est pas évident de revenir en arrière, parce qu'en fait, les policiers en France sont socialisés dans l'idée, c'est vraiment un outil routinier, le contrôle d'identité. Ils sont socialisés professionnellement dans l'idée que
ça sert à quoi, un contrôle d'identité? Ça débouche sur quoi généralement, outre le fait donc, comme vous dites, que ça permet d'asseoir le pouvoir du policier?
Le souci en France, c'est que c'est quelque chose qui est mal chiffré. Les contrôles d'identité ne sont pas systématiquement enregistré. C'est pas comme une interpellation. Quand vous interpellez quelqu'un, ça rentre dans la base de données statistiques qui s'appelle LRPP. Un contrôle d'identité n'est pas forcément enregistré. Donc en fait, on mesure assez mal. On n'a pas une très très bonne vision du taux d'efficacité des contrôles d'identité en France, contrairement aux Britanniques par exemple. Néanmoins, sur les études empiriques qui ont été menées, c'est-à-dire en gros par des chercheurs dont je fais partie, qui ont accompagné des policiers sur la voie publique et observé leur travail, et donc on a un peu essayé de chiffrer tout ça, le taux de réussite des contrôles d'identité, il est très faible. Il est de l'ordre de 1 ou 5 sur 100. Quand je dis taux d'efficacité, c'est en gros on contrôle quelqu'un et puis on découvre soit que la personne est porteuse d'un objet dangereux, une arme ou de produits par exemple illicites, ou alors on découvre que cette personne elle fait l'objet d'une fiche de recherche pour parce qu'elle a commis une infraction ou parce qu'elle s'est pas présentée à la justice. À ce moment-là, on l'interpelle pour la remettre justement entre les mains de la justice. Mais vraiment le taux de réussite est très très faible.
Un taux de réussite très faible et une arrière-pensée qui dirait des attitudes discriminatoires, voire du racisme. On a entendu la notion de racisme d'État, Christian Fautré, utilisé par certaines associations. Est-ce que vous pensez que là aussi il y a trop de contrôle au faciès parmi les procédures qui sont aujourd'hui utilisées par les forces de l'ordre sur la ville de Champigny-sur-Marne, dont vous êtes le premier adjoint?
comme ça a été dit, il faut l'utiliser lorsque c'est nécessaire, mais il ne faut pas que ce soit une pratique qui se systématise.
Sur les contrôles aux faciès, est-ce que vous pensez que c'est un mythe ou est-ce que c'est quelque chose que vous observez aujourd'hui?
Bah, en tous les cas, c'est ce qui nous est rapporté. Donc, après, il peut y avoir peut-être de l'exagération, mais je ne crois pas. Je pense qu'il y a des jeunes. Le problème, c'est que faire des contrôles, c'est normal. On peut faire des contrôles, c'est normal, lorsque c'est nécessaire. Mais il ne faut pas que ce soit dirigé seulement contre certaines populations. Et c'est comme tout à l'heure, je disais, on généralise trop selon qui on est, d'où on vient, de quel quartier on vient, éventuellement de la couleur de peau qu'on peut avoir. Sauf que on frustre un certain nombre de jeunes qui n'ont rien à voir avec la délinquance ou autre. Donc, toujours généraliser, stigmatiser. Faire comme s'il y avait, comme si une catégorie, une communauté comportait tous les problèmes du monde, c'est pas bien, parce que y compris ceux qui sont dans des dispositions qui travaillent, qui vont à l'école, qui sont au travail, qui se lèvent de bonne heure et se voient malgré tout un peu mis un peu comme dans le même sac que les autres, il y a entre le dealer qui gêne les habitants du matin au soir et celui qui se lève le matin, le jeune qui va à l'école, qui va au lycée, qui va à l'université, il y a quand même une différence, quoi. Je veux dire, faut pas tout mélanger, quoi.
Est-ce que la lutte contre le terrorisme a changé quelque chose à cette situation? Parce qu'on entendait dire, Mathieu Zagrosky, que la police était principalement mobilisée contre le terrorisme et contre les terroristes potentiels. Est-ce que c'est ce que vous observez? Est-ce qu'il y a eu effectivement un bouleversement à la faveur donc de cette période de risque attentat?
Plusieurs choses. Déjà, ça a fortement affecté les unités de voie publique pour les raisons que j'ai évoquées, tout à l'heure. Parce qu'en fait, on les a assignées à la surveillance d'un certain nombre de lieux. Ensuite, on les a équipées différemment. Si on prend les brigades anticriminalité dans la police ou les pelotons spéciaux d'intervention de la gendarmerie, qui étaient des unités, qui sont toujours des unités qui sont dédiées à du flagrant délit, bon, on les a équipés d'armements lourds aujourd'hui pour pouvoir répondre à des tueries de masse. Parce qu'on sait très bien que les unités spécialisées type RAID GIGN, elles peuvent pas arriver sur les lieux en 5 minutes. Donc en fait, il faut des gens qui arrivent très très rapidement et qui soient suffisamment équipés pour pouvoir riposter en cas d'attaque terroriste. Sur Charlie Hebdo, c'est exactement ce qui s'est passé. Sur Charlie Hebdo, il y a des équipages de police, secours, des brigades de criminalité qui sont arrivés sur les lieux, qui n'étaient pas suffisamment armés en fait pour stopper les frères Kouachi. Alors ensuite, ça a eu une répercussion indirecte sur les policiers du quotidien, c'est que la plupart des ressources pendant 2 ans, et quand je parle de ressources, c'est principalement des effectifs et des nouvelles arrivées, des nouveaux recrutements, ont été affectés au renseignement territorial et justement à des unités spécialisées type RAID, BRI. Donc le RAID a été fortement renforcé numériquement. La BRI de Paris a vu ses effectifs doubler. Donc la BRI de Paris, c'est l'unité spécialisée qui est intervenue au Bataclan, notamment, pour préciser cela. Donc en fait, il y a eu une insistance sur, premièrement, la nécessité d'identifier les terroristes, enfin en gros de collecter du renseignement et d'identifier des signaux de radicalisation, et deuxièmement de réaction à des événements d'une extrême gravité comme ceux par exemple du Bataclan ou de Charlie Hebdo. Et puis en fait on s'est rendu compte au fil de l'année ou de l'année et demie écoulée, comme je disais, à la faveur d'événements dramatiques comme ceux de Viry-Châtillon ou de Aulnay-sous-Bois, et bien que la question de la sécurité quotidienne des relations police-population devait être remise sous le tapis, d'où cette réforme qui se veut un peu emblématique et symbolique et forte de la police de sécurité du quotidien.
Cette période de lutte contre le terrorisme, elle a changé quelque chose sur une ville comme Champigny-sur-Marne, à l'échelon local? Est-ce que ça change quelque chose?
Non, pas vraiment, à part que pour les organisations d'initiative publique, on a été contraint évidemment d'en tenir compte, et lorsque il y a des grands moments festifs extérieurs, il nous a fallu prendre des dispositions particulières pour empêcher par exemple que des camions rentrent dans la foule, par exemple, choses comme ça.
Mais en dehors de ça, est-ce que par exemple vous avez été conduit à surveiller les fichiers S? Vous avez des fichiers S dans votre ville?
Je n'en ai pas connaissance personnellement.
C'est-à-dire que vous n'avez pas posé la question, ou lorsque vous avez posé la question, on vous a pas donné de réponse?
Ben, on n'a pas. Je ne sais même pas si d'ailleurs on pourrait en avoir connaissance. Je ne suis pas sûr.
De manière officielle, non. De manière officieuse, oui.
De manière officieuse, en tout cas, ce qui me concerne personnellement, je les ai pas.
Et est-ce que c'est quelque chose auquel vous prêtez attention? Est-ce que là aussi, ça fait partie désormais des nouvelles missions du maire que de se soucier, indépendamment donc des manifestations de voie publique?
Bah, il vaut mieux avoir un minimum de connaissances quand même, hein, parce que puis c'est aussi une bonne façon de travailler en toute intelligence, en bonne intelligence avec la police, ce que nous faisons déjà aujourd'hui. Je voudrais préciser quand même que malgré les difficultés qu'ils rencontrent, hein, les policiers, moi je me suis rendu au lendemain, dès le lendemain, dans les deux commissariats qui ont été concernés, celui de Champigny et celui de Chennevières, et effectivement, je voudrais préciser quand même que le regard des jeunes n'est pas aussi mauvais que ça, parce que la commandante qui était d'astreinte ce soir-là, le lendemain me disait que beaucoup de jeunes étaient très bienveillants vis-à-vis de leur du fait qu'ils soient venus. Donc ils ont bien compris qu'il y avait un problème et que la police était utile à ce moment-là. Et donc ils ont beaucoup insisté, ils n'ont pas voulu qu'il y ait un amalgame entre les jeunes qui ont agressé deux policiers et l'ensemble des jeunes qui venaient là pour faire la fête, tout simplement, comme on aurait pu le faire les uns les autres.
Oui, et un amalgame effectivement qui n'a pas été fait, mais aussi, et c'est peut-être pour cela que cet incident à Champigny-sur-Marne a eu autant d'écho, Mathieu Zagrowski, parce que il signifie que finalement il n'y a pas eu de changement véritable de relation entre les jeunes et la police. L'a fait donc désormais le troisième anniversaire de l'attentat contre Charlie Hebdo, de cette vague d'attentats avec des policiers tués. À l'époque, on se souvient qu'il y avait eu une sorte de rapprochement entre la population et la police. Rétrospectivement, comment vous jugez cette période ?
Bon, le gain de popularité de la police à l'époque n'est pas forcément retombé. Mais là, je parle en population générale. En gros, au cours de l'année 2015, la police et la gendarmerie ont gagné environ 15 points de confiance. On est passé de autour de 65-67% à 80-82%. Ce qui veut dire qu'il reste quand même une vingtaine de pourcents de personnes qui n'ont pas forcément confiance dans la police, qui n'ont pas forcément une bonne opinion de la police. Et c'est sûr que l'âge compte, le quartier compte. Il y a tout un tas en fait de facteurs socio-démographiques qui entrent en ligne de compte, et dans les quartiers la situation n'a pas forcément fondamentalement changé, parce que dans ces quartiers-là, et puis on en revient encore une fois à la question des contrôles d'identité et puis des interactions entre policiers et jeunes, la représentation qu'ont les gens de la police sont pas forcément des gens qui sauvent les autres, comme on a pu le voir justement à travers cette vague d'attentats, avec des policiers qui prennent des risques personnels extrêmement importants pour extraire des otages, pour sauver la vie de gens. Ce sont en fait des personnes qui interviennent sur des situations un peu compliquées, qui viennent faire des contrôles et qui en gros sont une force un peu répressive, un peu contraignante. Et là aussi, hein, je mets ma casquette de chercheur, hein, les études sur la question le montrent très clairement. L'image que vous avez de la police, elle dépend pas seulement et pas majoritairement de ce que vous voyez à la télé, de ce que vous en entendez, elle dépend en grande partie des interactions concrètes que vous avez eues avec elle. C'est-à-dire qu'en gros, le fait d'avoir eu ou non une intervention négative ou positive avec la police va affecter très très fortement l'image que vous avez d'elle. Or, si la majorité de vos interactions avec la police, c'est le fait d'être contrôlé ou d'être interpellé, nécessairement vous allez en avoir une mauvaise image.
Un mot de conclusion à ce sujet, Christian Fautré, sur les relations et l'image de la police, notamment dans votre ville à Champigny-sur-Marne.
L'image de la police, elle se fera d'autant mieux que on lui donne les moyens de pouvoir jouer pleinement son rôle. Et c'est vrai que et donc pleinement son rôle, ça veut dire aussi être dans la proximité, d'être au plus près des besoins d'intervention que les habitants ont. C'est vrai que souvent les habitants se plaignent de pas pouvoir lorsqu'il y a une cage d'escalier qui est occupée, lorsque il y a des groupements qui se font, lorsqu'il y a des problèmes même de stationnement dans la vie quotidienne, tout simplement. C'est vrai que rajouter aux difficultés de la vie tout court, c'est vrai que d'avoir le sentiment de ne pas être entendu d'un service public à qui on demande des choses, évidemment, donne des frustrations à beaucoup de monde. Donc, revenir à une culture de meilleur contact avec la population, la police, c'est aussi leur donner les moyens de pouvoir intervenir. Et par exemple, lorsque ils sont peu la nuit pour rencontrer, parce que c'est aussi la nuit où les choses se passent, et que on leur dit, mais excusez-moi, j'ai pas le véhicule pour venir, c'est vrai que du même coup, c'est un vrai problème.
Christian Fautré, je rappelle que vous êtes premier maire adjoint PCF de Champigny-sur-Marne. Mathieu Zagrowski, votre livre « Que fait la police, le rôle du policier dans la société » aux éditions de l'Aube.